Vous écoutez France Culture. À voix nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Ce soir, enseigner, c'est étudier encore.
Bonsoir Florence Delay et merci de nous recevoir ce soir à nouveau. Vous êtes écrivain, je le rappelle, essayiste, traductrice, comédienne, dramaturge. Vous avez été professeur de littérature comparée et générale à la Sorbonne et vous êtes membre de l'Académie française. Hier soir, nous avons parlé du théâtre, une grande passion née très tôt dans l'enfance et qui ne vous a jamais quitté. Nous avons raconté comment les circonstances de la vie vous ont fait choisir le métier de professeur et non celui de metteur en scène. C'est donc de l'enseignement et de l'écriture dont nous allons parler ce soir. Est-ce que vous vous souvenez, Florence Delay, de votre premier cours et même de la préparation de ce premier cours à la Sorbonne?
Oui. Oui, c'était un cours au thème imposé sur les traductions de Shakespeare au XVIIIe siècle. J'avais trouvé une façon de capter mon auditoire sur ce sujet sévère, qui était un merveilleux trait du traducteur Ducis au XVIIIe, qui a traduit entre autres Othello, après la mort de Desdémone, tuée par Othello. Les gentilshommes vénitiens s'entretiennent entre eux des causes de sa mort, et brusquement l'un d'eux explique les choses en disant « c'est la faute au climat ». Bon, évidemment, c'est une phrase qui ne se trouve absolument pas dans Shakespeare et qui correspond tout à fait aux recherches du XVIIIe siècle, qui découvrent les influences du climat sur les tempéraments. Et ce « c'est la faute au climat » a détendu terriblement l'atmosphère et on a commencé comme ça.
Quel était l'intitulé de votre poste à la Sorbonne ?
J'ai été assistante et ensuite maître assistant. Et ensuite, maître de conférence. J'ai jamais été professeur. J'ai jamais soutenu ma thèse. J'ai fait semblant.
Et enseigner à la Sorbonne, choisir la Sorbonne, déjà, est-ce que c'était un choix? Et est-ce que c'était facile de pouvoir accéder à l'université de son choix?
Ah non, on est choisi. Enfin, il se trouve, on postule. On postule et on est choisi. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais toute fraîche agrégée d'espagnol et celui qui dirigeait, le professeur qui dirigeait le secteur de littérature comparée, c'était pas encore des UFR, des unités de valeur comme ce sera après la réforme. Charles Dédéian choisissait enfin ses assistants parmi soit des agrégés de lettres, soit des agrégés de langues, puisque finalement, il n'y a pas une agrégation de littérature générale et comparée, et qu'on y vient par les lettres et la littérature française, comme par les langues et les autres littératures.
L'année de votre rentrée, c'est l'année 1967, donc pour l'année scolaire 67-68.
Oui, et tout éclate à la fin.
Donc vous êtes aux premières loges, Florence Delay.
Je suis aux premières loges, et c'est évidemment un très grand choc. J'ai vécu cette période avec passion. J'habitais au quartier latin aussi, j'habitais rue de la Harpe, pas loin de la Sorbonne. Par exemple, je me souviens encore de la première assemblée générale où on avait mélangé les collèges, le collège A des professeurs et le collège B des assistants et maîtres assistants, ça s'était jamais vu. Et le collège A n'était pas très enthousiaste de nous voir. Si j'ai en même temps, enfin, il y a beaucoup de souvenirs de 68 et aussi des souvenirs un peu douloureux parce que, au fond, j'étais jour et nuit à la Sorbonne
Et vous participiez aux assemblées.
Aux réunions, aux assemblées. Et je le vivais avec joie et curiosité. Et mon père le vivait avec douleur et anxiété. Parce que son bureau à Sainte-Anne a été occupé, que des propos ont été dits qu'il n'admettait pas, à savoir que les étudiants dans cet amphithéâtre où il avait tant enseigné n'avaient rien appris. Ça, c'était une contre-vérité, sans doute. Et il a senti que j'étais de l'autre côté. Et ça a été très douloureux pour lui, je crois. Jusqu'au moment où il m'a dit d'aller chercher ses diplômes qui lui étaient chers, qui étaient dans son bureau, qui étaient occupés. Et donc je suis allée à Sainte-Anne. Et voilà. Donc ça a été... Je ne me suis pas rendu compte sur le moment. C'est après que j'ai mesuré qu'il avait dû... Il avait dû être très blessé par tout ça. D'ailleurs, il a démissionné peu après. Il avait fini sa carrière, il avait commencé très tôt et il s'est retiré.
Et vous, qu'est-ce qui vous touchait, Florence Delay, dans ce mouvement? Était-ce la remise en cause de la séparation stricte entre celui qui apprend et celui qui dispense le savoir? Est-ce que c'était autre chose dans Mai 68 qui vous a touché?
Je me souviens d'un propos de Bergamine, qui a vécu mai 68 à Paris, et qu'il disait que ça lui rappelait les premiers jours de la République, enfin la joie. Bon. Il y a eu... Vous savez, je suis aussi assez superficielle, et j'ai... Mais comme dirait Jean Giraudoux, je trouve assez d'épaisseur à la surface du monde. Elle me suffit. Et si je reste à la surface de mai 68, eh bien, c'était passionné. Il y a eu une libération de parole inouïe des étudiants. Taiseux, que je n'avais jamais vu parler, tenaient un discours. Il y avait cet espoir aussi d'aller du côté de la politique qui n'était pas mon territoire. Moi, j'étais plutôt dans un renversement de la vieille Sorbonne où brusquement une égalité merveilleuse naîtrait entre A, B et les étudiants. Et voilà, j'ai été très surprise aussi, et j'ai beaucoup écouté. Voilà.
Vous dites parfois, Florence Delay, que c'est parfois grâce à la question d'un étudiant, la suggestion d'un autre, que vous avez orienté une recherche, écrit un livre, etc. Quelle était votre relation aux étudiants?
Comment dire? Un sentiment d'égalité. D'abord, j'avais leur âge. Enfin, j'étais un peu plus âgée, mais pas tellement. Et ensuite, j'avais vraiment le sentiment d'avoir tout à apprendre. D'ailleurs, il y a beaucoup de propos dans un livre qui s'appelle « L'école » d'Antoine Vitesse. Il parle bien sûr de l'école de théâtre. Il y a beaucoup de propos qui me rapprochent de ce que je pense aussi de l'enseignement. Il dit « L'enseignement n'a ni commencement ni fin ». Et ce n'est pas parce que j'avais un peu d'avance sur mes étudiants qu'il fallait me sentir ma maîtrise. Et d'ailleurs, je déteste le mot maîtrise. Et je n'aimais pas avoir le sentiment de posséder un sujet. Je voulais découvrir ce sujet avec mes étudiants, avec un peu d'avance sur eux, parce qu'autrement... et aussi mes instruments de travail. Mais je n'avais pas envie de leur opposer un discours tout fait et quelque chose de fermé. Je pense que c'était l'époque aussi, vous vous souvenez, de l'œuvre ouverte d'Umberto Eco, de cette idée. Et je crois que l'idée d'être un panier percé me convenait parfaitement, c'est-à-dire me laisser traverser. Et il est vrai que j'ai beaucoup appris avec mes étudiants, mais eux aussi. Je veux dire, c'était à double sens. En particulier, enfin, ça a été frappant, parce que je mettais au programme, il y avait des sujets obligés. Bien sûr, des questions de licence ou d'agrégation, bon, qui étaient un programme. Et puis, il y avait, à l'époque bénie où j'enseignais, il y avait des UV libres et vous pouviez choisir l'intitulé du cours que vous vouliez faire et également le séminaire que vous vouliez faire. Moi, j'ai pris un séminaire très tard parce que je ne me sentais pas... j'ai pris séminaire à la fin de ma carrière. Et donc, je choisissais toujours en UV libre ce que j'avais envie de découvrir.
Et alors, parmi ces choses que vous aviez envie de découvrir, il y a notamment un travail de plusieurs années sur les Indiens d'Amérique, oui. Sur les textes, les discours oui. Des Indiens d'Amérique. Est-ce que, et ce travail que vous avez mené avec Jacqueline Baldran,
oui.
Il intervient un peu avant le renouveau indien.
Oui.
Est-ce qu'il y avait une dimension militante, Florence Delay, dans le choix de ce travail ?
Alors, elle est venue après. Le choc qui a déterminé le choix, c'est une lecture de poèmes rue de la Harpe, chez moi, à une époque où la lecture publique n'existait pas beaucoup. C'est un poète américain, Jérôme Rottenberg, qui avait fait une anthologie, qui avait vécu pas mal de temps dans une réserve Sénéca, qui a écrit une magnifique anthologie de poésie indienne qui s'appelait « Shaking the Pumpkin », c'est-à-dire « En agitant la calebasse », c'est-à-dire en rythme, et il a fait une lecture chez moi avec quelques poètes qui étaient là, Jacques Roubaud, Michel de Guy, etc. Et c'était, il a commencé par des chants de chevaux, des Indiens Navajo, je crois. Bon, c'est-à-dire, c'était des hennissements rythmés. Et petit à petit, on se transformait en cheval. Et puis, il y a eu d'autres poèmes, et le choc a été tel que j'ai dit à Jacqueline Baldran, « Allez Jacqueline, prenons notre courage à deux mains, on se lance, on va faire un cours. » On ne savait rien. On a commencé à travailler sur une carte du Western parue dans Télérama pour situer les Sioux, les Cheyennes. On a travaillé tout l'été. Et on a honnêtement dit à nos étudiants à la rentrée, on est des grandes débutantes. Mais voilà, est-ce que vous voulez ? Et le cours a été formidable. Et alors, au fur et à mesure des années, on est passé aux luttes politiques, aux discours de chefs indiens, aux poèmes, chants des Indiens d'Amérique. On est allé approfondissant et le résultat a été beaucoup de bonheur. Il m'arrive encore de rencontrer d'anciens étudiants qui font leur vie. Mais vous vous souvenez, on travaillait sur les Indiens d'Amérique. Et en plus, avec on a travaillé sur leur mythe aussi, et sur ce personnage extraordinaire qu'on appelle le farceur, the trickster, celui qui joue des tours, et qui, selon les tribus, devient un coyote, jet bleu. Et oui, c'était une période très, très, très heureuse et très enrichissante. Et quand le cours a été fini, Jacques Roubaud m'a dit, mais qui m'avait beaucoup aidé à rassembler les textes, que vas-tu faire de tout ça ? Et nous avons fait un livre qui s'appelle Partition rouge, poèmes, chants des Indiens d'Amérique du Nord. Donc, quelquefois, le cours et ses découvertes aboutissaient à un livre.
Eh bien, venons-en au livre, justement. Dans un épisode précédent de notre conversation, vous nous expliquiez comment Maurice Molliot, un de vos professeurs d'espagnol, vous avait fait reprendre la préparation de l'agrégation, et ce professeur était convaincu de votre destin d'écrivain. Et vous l'étiez-vous à ce moment-là ?
Alors,
il y a cette phrase que vous rapportez dans l'un de vos livres, où il vous dit, Florence Delay, vous n'écrirez pas en bon français, car le bon français, c'est la fin de la littérature.
Oui, ça m'a beaucoup frappé. Pour revenir à votre question, je crois que j'en étais convaincue, parce que, de toute façon, nous avions fait un pacte, Natacha, Michel et moi, en classe de seconde au café Jean Bar, qui était en face de, de La Fontaine, on avait fait le pacte de devenir écrivain. Mais nous avons fait passer tout avant. C'est-à-dire moi, le théâtre, et puis ensuite l'agrégation d'espagnol, elle, la philosophie et la politique. Et puis un beau jour, on s'est rencontrés, on avait fait tout ce qu'on avait dit, sauf écrire nos premiers romans. Et on s'y est mis, ensemble, en se réunissant deux fois, trois fois par semaine. Et on se lisait l'une à l'autre ce qu'on avait écrit, on se corrigeait avec fureur et très durement. Et voilà comment ont été écrits nos deux premiers livres.
Votre premier livre paraît donc en 1973, c'est « Minuit sur les Jeux ». Il est écrit à la première personne, et le narrateur, Julie, vous ressemble un peu, Florence Delay.
Oui, c'est en effet un roman d'éducation. Je crois que beaucoup d'écrivains ont commencé par un roman d'éducation. Je l'ai écrit à l'âge où je pensais mon éducation terminée. Mais en fait, c'est pas vrai, on la recommence tout le temps. Et il y a des romans de seconde éducation, de troisième éducation. Et là, c'est en fait un jeu qui prend en compte un peu toutes les filles de ma génération et du lycée. Je leur emprunte d'ailleurs des histoires. Tout ne m'est pas arrivé à moi, mais à elles aussi. Et c'est une sorte de portrait, peut-être, des jeunes filles de cette génération-là. En particulier, l'éducation laïque, enfin je veux dire, il y a toute une analyse en fait aimante et critique du lycée, et puis ensuite à la sortie du lycée, ben on découvre qu'on a un corps et que personne ne nous a jamais expliqué.
Personne ne vous avait prévenu.
Personne ne nous avait prévenu. Voilà. Et après donc viennent les aventures de ce corps qu'il faut habiter.
Incarner.
Incarner, oui.
Comme on incarne Jeanne d'Arc. Mm-hmm.
Voilà, donc, et le premier roman de Natacha s'appelle « Ici commence ». Et puis, voilà, on a continué chacune une route.
Alors, il y a un autre travail, Florence Delay, d'écriture et de traduction. C'est cette entreprise de La Célestine. Que vous allez écrire, traduire pour Antoine Vitesse, si je ne me trompe pas. C'était une commande ?
Oui, ça a été une commande d'Antoine Vitesse. Et j'en profite pour faire l'éloge de la commande. Car grâce aux commandes, on fait des choses qu'on ne ferait pas. Et il faudrait... C'était une façon de faire des mécènes... de la Renaissance. Bon. Bref, Antoine Vitesse a été...
C'était autour de 1989, c'est ça à peu près ?
C'est ça. Ouais. Alors, la rencontre avec Antoine Vitesse, elle est due, dirais-je, à mes propres forces. C'est-à-dire que rien n'est intervenu. J'ai été assise à côté de lui un soir à une projection. Et il s'est tourné vers moi et il m'a tutoyée. Mais j'ai beaucoup travaillé sur son tutoiement. C'est très intéressant, le tu de Vitesse. C'est un tu royal, à mon avis. Il s'est tourné vers moi et en fait, je l'intéressais parce que sa mère était en train de lire un de mes romans et le trouvait très bien. Donc j'étais fière comme un petit bon. C'était mon second roman. Et alors j'ai commencé à rôder autour de Vitesse, j'ai pas fait partie de son école, cette école dont sont sortis tant de comédiens absolument merveilleux. Mais l'école d'Antoine Vitesse a donné lieu à des livres et à, que j'ai lus avec ardeur. Il disait par exemple que l'école est le plus beau théâtre du monde. Et il pense à l'école de théâtre, mais je pense à l'école tout court. Que c'est le plus beau théâtre du monde. Et donc, je suis entrée dans son entourage et j'ai commencé à voir ses pièces et assister aux répétitions. Puis, il a pris la direction du Théâtre National de Chaillot. Et là, il a fait plein de choses très pédagogiques aussi. Il a monté des discours politiques qu'il a fait redire par ses comédiens. Et il y avait toute une idée une idée d'enseignement liée aussi à la liberté et à l'invention de ces comédiens, car lui s'inspirait beaucoup d'eux, beaucoup d'eux. Et alors, Antoine avait aussi un don extraordinaire de gaieté. Il imitait à merveille. Et il pouvait faire tout le monde. Tout le monde, de Georges Marchais à... Il imitait tout le monde. Et j'aurais bien aimé avoir ce don d'imitation. Enfin, c'est une grande figure. Il a beaucoup compté pour moi. Et il a eu la générosité de me commander la Célestine. Seulement, il voulait la Célestine intégrale. Et c'était 24 heures.
C'est un texte très long.
Très, très long. Il y a 24 actes où... Bon. Alors...
Est-ce qu'on peut rappeler, pardon, Florence Delay, qu'est-ce que ce texte de la Célestine ?
Alors, là, oui, vous avez tout à fait raison. La Célestine est le grand texte de la... qui fait la jointure entre le Moyen-Âge et les temps modernes. C'est une sorte de roman parlé. Il est à la fois théâtre et roman. En fait, La Célestine est la première grande pièce et le premier roman.
Et c'est un texte espagnol, donc.
Et c'est un texte espagnol de Fernando de Rojas qui raconte l'histoire, c'est une tragicomédie, écrite pour blâmer les amoureux fous qui appellent Dieu leur ami et prévenir contre la turpitude des intermédiaires. Et l'intermédiaire, c'est Célestine. Elle va donner d'ailleurs un nom commun, une Célestine, c'est une entremetteuse. Et cette turpitude des intermédiaires, c'est un sujet brûlant et actuel. Et il l'avait bien senti, Vitesse. Alors, il voulait que je traduise tout, et à l'époque, il y avait le comité de lecture de Gallimard, les cours à préparer, j'écrivais aussi, ça m'a semblé monumental, et j'ai dit non. Et puis... il a monté intégralement à ce moment-là Le Soulier de Satin. Il aimait les projets fous et l'extravagance et aller jusqu'au bout. Et il prenait même une certaine outrecuidance sans laquelle on ne fait rien. Et puis, des années après, il m'a demandé une version courte en 3 heures. Enfin, c'est pas si court. Et alors là, oui, j'étais prête.
Version courte qui impliquait donc de couper. De choisir.
Qui impliquait de couper. Et alors, je me suis cachée, masquée derrière mon idée que je détestais l'adaptation, que tout était très fidèle, qu'il n'y avait pas un mot de moi dans ma traduction, lorsque je me suis rendu compte que la paire de ciseaux était très subjective. C'est que je coupais ce que j'aimais moins, au fond. Et que je me réfugiais derrière une attitude très loyale et très transparente, et qu'en fait, non, c'était peut-être moins transparent qu'il n'y paraissait.
Et Florence Delay, ce texte a finalement été mis en scène par Antoine Vitesse pour le Festival d'Avignon, c'est ça ?
C'est ça. Il a été joué dans la Cour d'honneur et ensuite à l'Odéon.
Et vous vous souvenez de sa réception ?
Oui, oh, très mauvais. Très mauvais.
Vous l'expliquez ?
Elle est dure, la Cour d'honneur. Elle est dure, la Cour d'honneur. Je l'explique pour deux raisons. Je l'explique à cause d'un escalier qui avait été conçu par Yanis Kokos, censé aller des bas-fonds au ciel. Bon. Seulement, tout se jouait beaucoup sur les marches. Et par exemple, mon ami Roubaud, qui compte toujours... avait compté le nombre de marches qui avaient été franchies par tous les comédiens et descendues. Bon, c'est pour vous dire que cet escalier gênait. Et puis l'autre chose, c'est une malveillance. Je me souviens, il y avait une mélibée magnifique qui était Valérie Dréville, et quand elle se suicide, parce que tout se termine très mal, quand elle se suicide du haut de la tour, devant son vieux père, elle se suicide et nue, ayant tout abandonné. Et c'était très, très beau. Et alors, des plaisanteries, des colibés, etc. Ah, c'était dur, c'était dur. Mais à l'Odéon, ça s'est très bien passé.
Revenons un instant, Florence Delay, sur l'idée du modèle. Il y a un séminaire que vous avez monté également qui s'appelait « Le modèle, la copie, l'invention ».
Oui. Alors, c'est un sujet qui m'a hanté depuis toujours, parce que un petit peu par réaction à la superbe du XXe siècle qui a prétendu, depuis ses débuts, tout inventer. Or, je crois que j'aime le passé, j'aime les formes anciennes. Je pense qu'on a tout à gagner à ne rien oublier, enfin, ne rien oublier, à reparcourir des chemins anciens. Et j'ai établi ce cours à partir d'une exposition du Louvre qui s'appelait « Copier-créer », passionnante, qui montrait qu'au fond, tous les grands peintres avaient été au Louvre copiés des maîtres. Et qu'en fait, en littérature, ça pouvait peut-être être comme ça aussi.
Et était-ce une manière de faire tomber un tabou, quelque part?
Oui,
le tabou du...
Le tabou de l'invention à tout prix. Du neuf, du tout beau, tout neuf. Non, la beauté vient de loin. Se tourner vers le passé, et même redécouvrir des écrivains oubliés, c'est un peu les ressusciter, et c'est le travail d'un professeur.
Merci beaucoup, Florence Delay. Bonsoir et à demain.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son François Rivalan, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mélanie Chalandon avec Florence Delay.